Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aline. Salut Aline, comment ça va?
Salut, eh bien ça va et toi?
Ça va. Donc Aline, toi tu es développeuse web, développeuse mobile aussi, tu fais un peu de freelance,
oui.
Tu fais des streams Twitch, un peu de photos. C'est ça, j'ai bien résumé.
T'as bien résumé.
Ouais, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas plus en détail, tu pourrais te présenter rapidement?
Alors, moi c'est Aline, voilà, je suis présente sur les réseaux en tant que la dev de la toile. J'ai commencé à rentrer dans le monde du dev il y a déjà 3 ans. Ça passe vite, hein. Je me dis, quand je m'entends dire il y a 3 ans, je me dis quoi déjà? Et il y a seulement 1 an que je suis en CDI en tant que développeuse web front-end principalement. Il m'arrive, je commence un petit peu à toucher à du back, mais moins. Et je fais du mobile aussi, donc avec React Native, de manière générale. Voilà, pour me présenter brièvement.
Ça marche. Donc toi, tu as un profil reconversion, ça fait que 3 ans que tu es dans ce domaine. Et avant ça, tu faisais quoi?
Alors avant ça, en fait, j'ai fait plusieurs métiers, entre guillemets, plusieurs CDD. J'ai surtout été éducatrice de beaucoup, que ce soit en IME, en MEX, en ITEP, en ULIS aussi auprès d'enfants avec autisme. Mmh. J'ai beaucoup travaillé dans ça, dans l'accompagnement. J'ai commencé par être professeur des écoles stagiaires, mais je suis pas resté très longtemps, j'ai démissionné très vite. 2 mois. J'ai tenu 2 mois.
Pourquoi t'as démissionné? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a été une expérience professionnelle, ma première, qui a été catastrophique. C'était beaucoup de harcèlement moral, beaucoup de remarques très très négatives. Énormément de pression aussi. Plus de temps libre, plus rien. J'arrivais même plus à prendre du temps pour moi. Et donc j'étais en binôme avec une autre fille en fait à ce moment-là. Parce que quand on a le concours de professeur des écoles, on commence en tant que stagiaire et on se partage une classe. Alors ça se déroule comme ça et cette autre personne a démissionné aussi parce que ça.
Ok, c'était vraiment compliqué. Hein.
Oui. Oui, et les personnes qui nous ont remplacés, elles ont été plus protégées parce que nous, on a fait des mots, on a fait le nécessaire pour que les personnes qui nous remplacent derrière ne subissent pas ce que nous, on a subi. Voilà, donc pour elles, ça s'est un petit peu mieux déroulé. Mais voilà, du coup, je me suis plus tournée vers le métier d'éducateur que j'ai fait pendant des années, hein, jusqu'à mes 26 ans, 26-27 ans à peu près. Et puis j'ai fini pendant le Covid par me tourner vers le dev après un burn-out quoi du coup.
Mais en fait, tu sais que t'es la troisième personne que j'ai en podcast qui me parle de la période Covid qui a été décisive on va dire à son avenir. Personne que j'ai eue m'a dit que le Covid grâce au Covid ils ont pu changer de secteur directement. Et moi aussi, le Covid, pareil, ça m'a servi à réfléchir et à me lancer dans quelque chose d'autre. C'est que ça a fait du bien, on va dire, malheureusement, d'avoir ce temps, cette coupure pour être un peu plus calme et te poser, et se reconcentrer sur soi.
Mmh, exactement.
Et du coup, toi, t'es arrivé dans le dev. T'avais un attrait pour la tech ou un intérêt particulier ou c'est arrivé comme ça? Si tu peux nous expliquer un peu comment, le processus de passer d'éducatrice à arriver en tant que dev.
Alors, ça c'est lié à un côté très très intellectuel chez moi puisque je suis quelqu'un qui aime énormément réfléchir. J'ai fait après le bac, j'ai fait des études de philo J'avais pas d'idée de ce que je voulais faire de ma vie. C'est vraiment, j'ai eu une passion pour la philosophie tout de suite. Je suis arrivée en terminale, j'étais à fond. Et j'en parlais tout le temps d'ailleurs, hein, pour le plus grand malheur des membres de ma famille, ils en avaient marre à la fin. C'était tous les jours. Et j'avais déjà cet attrait à remettre en question les choses, à aimer réfléchir, à chercher des solutions, à essayer de comprendre. Et d'ailleurs, je m'ennuyais beaucoup dans ma vie professionnelle parce que, alors je ne dis pas que le métier d'éducateur n'est pas un métier où on ne réfléchit pas, au contraire, hein, mais c'est un métier d'action, c'est différent, il me manquait quelque chose. Je m'ennuyais vite, vraiment très vite, et puis beaucoup de stress, beaucoup de choses. Et comme je te disais, et comme non, tu disais aussi, c'est vrai que le Covid a été très très porteur sur ça parce qu'à ce moment-là, ça a été un moment où oui, on a remis en question. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie, en fait? Qu'est-ce qu'on aime vraiment dans la vie? Pourquoi est-ce que jusque-là ça ne va pas? Pourquoi est-ce que il y a un truc qui manque et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire?
Non, mais c'est vraiment ça. C'est que chacun s'est posé. T'as beaucoup de personnes qui ont lancé leur reconversion à partir de ce moment-là.
Exactement, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que ça a été un moment où on a eu l'impression que la pression sociale, entre guillemets, elle était plus vraiment là. Comme c'est libre,
ça.
D'un coup.
Voilà, c'est ça.
Ça fait vraiment cet effet-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, Karine, bon, ça t'a apporté beaucoup. Humainement, t'as appris beaucoup sur les personnes que t'as accompagnées. Et sur ça, j'ai pas de regrets, vraiment, parce que j'ai appris énormément de choses. Mais, bon, d'un autre côté, t'aimes pas non plus être trop entouré, t'aimes bien être tranquille, t'aimes bien réfléchir. Au final, tu fais un métier qui est pas du tout lié à ta personnalité et c'est pour ça que ça ne va pas arriver à un moment qu'il y a un truc qui cloche. Et bref, je me suis tournée vers ça parce que, bon, j'ai toujours eu un attrait pour les ordinateurs, pour tout ça aussi. Le dev, non, ça j'ai vraiment découvert, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai vraiment découvert cette année-là. Mais j'ai toujours eu ce côté, j'étais une adolescente, clairement moi j'étais l'ado geek sur ses jeux, sur son ordi, qui faisait des montages, qui faisait des blogs aussi, qui traînait sur les forums, j'étais H24 sur l'ordinateur, j'ai eu mes parents qui essayaient de faire des horaires et tout, parce que j'étais vraiment du matin au soir dessus, ça n'a jamais marché. Hein. Voilà.
On va dire que c'était une suite un peu logique qu'un jour bah tu te retrouves dans enfin que tu prennes le temps et que tu te retrouves dans la tech. Après ouais. Toi t'as fait des métiers où les compétences elles sont vraiment transposables, c'est que t'étais éducatrice, t'étais professeur et quand je te vois partager sur Twitter, bah maintenant que tu me dis ça, on voit ce côté où t'aimes bien bah prendre soin des gens, où t'aimes bien être bienveillante, moi je ressens ça quand je vois tout ce que tu partages.
Ouais, j'ai vraiment envie de donner à d'autres personnes déjà la force parce qu'en fait je me rends compte aussi il y a ce souci là parce que je sais ce qu'on ressent quand bah dans ces moments-là quand on sait pas vers quoi on veut aller en fait quand on se sent vraiment perdu quand on commence à se dire et je me demandais ça hein, à la fin de mon travail quand j'ai quitté mon boulot parce que là le médecin m'a dit non mais Aline vous êtes tu es en burn-out, ouais, en fait. Voilà ce qui se passe. J'étais voir un docteur. Hein. Je dormais 12 heures, je faisais des siestes la journée. Et là, je me suis dit, j'ai un problème, il y a quelque chose, une fatigue. Enfin, je ne vivais même plus. Hein. J'étais des années, honnêtement. Le week-end, je sortais pas. Le soir, je sortais pas. J'avais pas envie. J'étais déjà dehors toute la journée.
C'est ça.
Et je donnais un peu cette force aux personnes, pas forcément d'éviter cette vie-là, parce qu'on est tous et toutes différents. C'est de justement explorer, comme nous on a fait pendant ce Covid, qui on est, et par rapport à ça, essayer de trouver une voie qui convient par rapport à qui on est. Et à quel point la personnalité, c'est important. D'ailleurs, c'est drôle, hier soir, je lisais ça a été une conférence de Natsume Soseki, c'est un écrivain japonais du 20e, un peu environ, ouais, du 20e. Et en 1914, il a donné une conférence. Donc, ça a été traduit « Mon individualisme » en français. Et d'ailleurs, il le dit à l'intérieur lui-même, j'étais scotché par de lire ça. Je me dis, en 1914, le mec, il dit ça à une école quand même. C'est, en fait, écoutez votre personnalité. Parce que lui, cet écrivain, il a été très malheureux jusqu'à ses 30 ans, justement, parce qu'il sentait que c'était pas sa voix. Pareil. Et il s'est pas écouté pendant des années. Et il s'est battu pour justement trouver une voie et imposer sa personnalité. Alors lui, il parle d'imposer sa personnalité, mais sans écraser celle des autres, en prenant aussi soin de celle des autres.
Voilà, te révéler, mais sans, voilà, sans en faire trop, quoi.
Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que je veux pouvoir transmettre ça, c'est-à-dire pousser les personnes à croire qu'elles peuvent y arriver, à ne pas lâcher. C'est toujours peinant, en fait, de dire que des personnes se lancent dans la reconversion, qui déjà, c'est dur. C'est dur psychologiquement, c'est dur en termes d'énergie, financièrement aussi, enfin, sur plein d'aspects.
C'est ça. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que, enfin, la plupart du temps, quand on regarde les réseaux sociaux, t'as l'impression que la reconversion, c'est facile. C'est que ça se passe et que tu trouves un boulot. Et moi, ce que, enfin, j'aime entendre ces discours-là, parce que c'est un discours vrai, c'est que c'est dur. C'est que, financièrement, c'est que t'as le chômage pendant un moment, après, ça arrête. Certaines personnes, bah, doivent retourner à des jobs alimentaires pour cette raison-là. T'apprends quelque chose de nouveau, t'es noyé d'informations tous les jours, et ça pendant, bah, dès que tu commences la formation, c'est fini, t'es noyé tous les jours d'informations.
C'est ça. C'est ça, c'est, puis ce qui est compliqué, et en fait, c'est ça qui fait que j'essaie d'avoir un discours encourageant, d'être présente sur ça, parce que il y a une chose qui, déjà, qui m'atteignait un petit peu, et qui m'énerve un peu aujourd'hui, enfin qui m'énerve, non, qui m'agace, qui provoque de l'agacement, c'est de lire des personnes voilà, qui ont volontairement un discours décourageant, qui sont là pour dire, ouais, qui mettent littéralement des commentaires de moquerie totale, justement, pour les personnes qui viennent de bootcamp, de formation, etc., et qui enfoncent le clou. Et pareil, à force de pas arrêter de dire, justement, ah bah non... vous espérez quoi après 6 mois? Ah bah il y a pas de travail, ah bah il y a rien, etc., etc. Ben, l'air de rien. Déjà, je me dis c'est quand même des personnes qui sortent ça. Bon, certaines personnes sont expérimentées, mais c'est pas des sociologues quand même. Je veux dire, on connaît pas vraiment la réalité des choses en vrai. Hein. Et même sans ça, je me dis mais en quel honneur on n'aurait pas le droit d'être un très bon dev avec une petite formation ou même rien du tout d'ailleurs parce qu'il y a des devs ils sont même pas diplômés, ils ont appris entièrement tout seuls. Ça existe. Ils sont c'est des très très bons devs, ils sont aussi bons que quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. Bon et ça j'ai l'impression que parfois c'est quelque chose un peu mal vécu et certaines personnes ont besoin d'aller dire d'aller un peu découragé, voilà, c'est ça. Moi, personnes en fait, qui se reconvertissent.
Je pense que certaines personnes, on va dire, ont fait des études, par exemple 5 ans ou 3 ans ou je ne sais combien d'années d'études, et voir en fait bah, des taux de profil qui arriveraient là sans forcément avoir fait tout ce chemin, en ayant fait peut-être 6 mois de formation ou pas du tout de formation, et être assis au même poste, peut-être que, enfin certains, ça leur fait mal et ils se disent non, faut pas qu'ils viennent avec nous, mais c'est vrai qu'au final, enfin moi, je suis toujours tombé avec des personnes, on va dire, bienveillantes. Et tu vois que la plupart de ces personnes bienveillantes ne vont pas faire la distinction entre études, pas études. Et c'est vraiment l'humain, on va dire, qui va primer, quoi. Donc, c'est pas mal que toi, tu partages, bah, tous ces messages-là. Moi, c'est le but de ce podcast-là aussi, c'est d'avoir une voix pour tout ce qui est reconversion, tous les profils, on va dire, sous-représentés, que voilà. C'est possible si tu mets du tien, si c'est ce que t'aimes, tu arriveras un jour quoi. Ça va mettre du temps, mais tu réussiras à le faire.
Il faut persévérer et surtout, je le dis toujours, mais en même temps, quand il s'agit de notre vie et de nos choix, il faut écouter personne en fait. Voilà, même si c'est pas facile. Alors je dis ça, moi la première, hein, je suis atteinte, je me sens. Preuve, je le dis, je me sens agacée quand je lis certaines choses. Parfois, j'essaie de me dire, allez, t'agaces pas, c'est pas grave. C'est difficile. Mais pourtant, il ne faut écouter personne. Il y en aura toujours qui vont dire, honnêtement, tu vois, de mon côté, je me suis lancé direct en freelance. Il y en a plein qui diront qu'il faut absolument pas faire ça. Encore une fois, ça dépend des personnes. Alors, pour moi, effectivement, ça n'a pas marché de démarrer en freelance. Mais pas parce que je suis nul, parce que dès le départ, au-delà du manque d'expérience professionnelle, j'ai pas forcément fait les démarches, je me montrais sur les réseaux dès le départ, etc. Donc, c'est des facteurs extérieurs. Mais il y a des personnes qui démarrent par le freelance et qui arrivent très bien. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de pas aller dire, de pas aller mettre des idées toutes faites dans la tête de tout le monde. Bon, même si, bon, ça encore, c'est pas des conseils très méchants, hein. Mais voilà, de juste laisser les personnes faire leur propre cheminement et découvrir par elles-mêmes les choses. dire, j'ai fait du freelance, je me suis planté, ça n'a pas été ça, j'ai fait autre chose, ça n'a pas été
la première. C'est une leçon, tu as appris, tu sais pourquoi, enfin, tu sais pourquoi ça n'a pas marché, tu en as tiré des leçons pour avancer sur autre chose, quoi.
Exactement, voilà, c'est ça. Et ce que je dis beaucoup aux devs, c'est d'expérimenter personnellement, même quand on parle d'une stack ou quoi, même si tout le monde dit, ah non, c'est nul, gna gna, ah non. Non, si toi, t'as envie d'explorer cette stack-là parce que pour toi, elle a un sens pour quelque chose, mais go, quitte à ce que tu te défends de pète et ongles. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, même potentiellement pour un recruteur, etc., c'est d'avoir un dev qui est capable aussi de défendre une solution technique. Voilà, et de dire pourquoi est-ce que lui, il pense que c'est ça le mieux et pas autre chose. Et par contre, de s'ouvrir à ce que les autres peuvent proposer en même temps.
C'est ça, tu touches un peu à tout et faut savoir expliquer pourquoi tu as choisi ça et pourquoi, enfin, aussi avoir tes convictions, tester, pas suivre uniquement la hype.
C'est ça, exactement. Et voilà, de faire à... J'ai ces messages-là pour voilà, inviter à faire attention à tout ça, à ces vérités un petit peu que certaines personnes posent comme toutes faites, alors même si... voilà, c'est des partages d'expérience et il faut prendre ça comme tel, comme des partages d'expérience. Et si elle nous convient, on peut s'en accaparer et l'améliorer ou juste en accaparer tout court. Si ça ne nous convient pas, on est en droit d'aller faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le monde du dev évolue bien, parce que si on allait tous dans le même sens et toutes dans le même sens, ce serait compliqué, ce serait dommage.
Il n'y aurait pas de spécialisation et on ferait toute la même stack, tous du web ou tous du front et voilà, fin.
Voilà, c'est ça.
Je voulais juste revenir un peu en arrière. Donc là, tu t'es formé sur combien de temps? Tu as fait un parcours bootcamp classique 6 mois ou ensuite tu as ajouté une petite alternance derrière?
Alors en fait, j'ai commencé par le wagon. Donc ça a duré 3 mois. Le wagon, c'est un bootcamp extrêmement rapide. Donc j'ai commencé à apprendre avec Ruby, avec le langage Ruby. C'est avec ça que j'ai commencé à m'initier un peu à l'algorithmie, à voir les if, les else, les bases à comprendre. Mais quand je suis sorti de ça, il y avait, en fait, c'est extrêmement rapide et c'est vrai que j'avais besoin de plus de temps pour vraiment assimiler les notions. C'est vrai que quand je suis sorti de ce bootcamp, par exemple, tu me parlais d'API. J'étais pas encore capable de vraiment comprendre ce que c'est. Tu vois, tu m'aurais demandé c'est quoi, j'aurais fait.
Tu l'as vu en rapide, mais t'as pas eu le temps vraiment de l'assimiler, quoi. C'est 3 mois, c'est ça va très vite.
C'est ça, mais j'ai même mis du temps au départ. Je t'avoue, quand on me disait responsive, j'osais pas dire que je savais pas ce que ça voulait dire. J'étais là, oui, tu fais responsive. Je faisais, ouais, ok, je fais responsive. Et puis après, non, c'est quoi?
On a tous été comme ça, on dit oui, après tu vas sur Google chercher c'est quoi ce truc.
Exactement, ouais. Combien de fois j'ai fait ça, et puis bon, maintenant je sais, je te rassure, mais à ce moment-là, toutes ces petits trucs-là, j'étais là, je comprenais même pas, et je me suis dit, non, là je suis pas prête du tout, ça va pas le faire, quoi. Et donc je me suis tournée vers Open Classrooms, parce que comme je voulais être plus vers le freelance, sur le moment, je me suis dit, il me faut un truc à distance, où je suis pas mal toute seule. Puis parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses tout seul, qui a besoin de beaucoup de moments quand même seul et de peu d'échanges.
C'est ça.
Et ça, tu vois, d'avoir le mentor une fois par semaine, d'avoir un projet où on me dit voilà, t'as tel projet à faire, t'as telle consigne à tenir, et tu passes ta soutenance, tu défends tes solutions techniques, et à la fin, voilà. Et ça me plaisait. Je fais ça, c'est vraiment idéal pour moi. Et d'ailleurs, ça a été le cas parce que c'est vraiment avec Open Classrooms que j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris.
Et t'as fait combien de temps avec Open Classroom? C'est sur combien de temps?
Alors, sur 8 mois, je l'ai fait de décembre à... Donc, c'était décembre 2020 à août 2021.
Ok, donc que des projets. Chaque semaine, un call avec le mentor pour lui montrer un peu ton avancée.
C'est ça. C'est ça. Et en plus, j'ai eu un super mentor. Vraiment, il était vraiment top. Il m'a appris énormément de choses. Puis lui, il est très, très à l'essentiel, très pédagogue. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis ressorti. C'était vraiment, vraiment très bien. Bon, j'étais à la limite, la certification, là, au niveau des dates, comment j'étais à la limite. La validation à le jour même du dernier projet, le jour même, hein, je crois, j'avais une date limite de fin. Là, j'ai validé, j'ai fait ouf.
Ok, donc en fait, avant cette date-là, faut que t'aies rendu tous tes projets, on va dire, et là maintenant, tu peux passer à soutenance.
C'est ça. En fait, en 8 mois, donc j'avais 7 projets. Bon, ça a dû un petit peu changer depuis. Je change régulièrement les sujets, tout ça. 7 projets et il fallait, faut les remplir. Voilà. Après, tu vas à ton rythme. Hein. Il y en a, ils essayent de faire très très vite pour qu'en 3 mois, ce soit fait. Il y en a, c'est plus tranquille. Pour ma part, j'ai besoin que ce soit plus tranquille. Bon, aussi parce que je travaillais à côté. Hein, au début, avant de gagner ma vie en tant que dev, je gagnais ma vie un peu autrement. J'étais à ESH en lycée à côté.
Ok. Donc, t'as pas forcément le temps de faire des longues journées sur Open Classroom. T'essaies de t'organiser 1 heure, 2 heures.
C'est ça. Je travaillais vraiment à côté pour pouvoir avoir le temps de faire les choses. Et puis j'essayais vraiment de prendre le temps d'assimiler. C'est-à-dire que toutes les lacunes que j'ai eues en sortant du wagon, j'ai essayé à ce moment-là d'un peu plus les travailler. Bon, je l'ai pas encore très très bien fait à l'heure actuelle. Je suis beaucoup dans une remise en question de ma façon d'apprendre, de ma façon de faire. Je l'ai totalement changé ma façon d'apprendre aujourd'hui parce qu'à l'heure actuelle, ce qui me manque beaucoup, c'est quand même une culture plus technique du dev, de tous les fonctionnements qu'il y a autour du code. Il me manque encore pas mal de choses. Donc, et avec tout ce que j'ai appris sur comment bien apprendre dans le dev, etc., j'ai appliqué certaines choses, d'ailleurs, que je raconterai et que je partagerai quand je ferai ma conférence bientôt.
De toute façon, dès que tu as ta conférence, tu m'envoies ça, je partage, puisque c'est super à suivre tous ces trucs-là. Et je voulais revenir, là, tu fais ta formation Open Classroom, dès que tu la termines, c'est quoi la suite pour toi?
Alors, j'ai fait 1 an de freelance après. C'est là que j'ai fait freelance directement. J'ai osé. Et bon, j'ai pas eu beaucoup de missions, hein, impossible d'en vivre. Mais bon, ça m'a quand même apporté la possibilité de découvrir donc Strapi. J'ai une mission, j'ai fait un peu de Strapi, avec un headless CMS. Pour facilement avoir un back-end à disposition et de faire un petit blog gentiment, rapidement, voilà. Donc c'était cool, ça m'a fait une petite expérience avec ça, avec un dashboard d'administrateur.
Comment tu as trouvé l'expérience? T'es allé sur Malte ou enfin vraiment, tu connaissais quelqu'un qui t'a connecté?
C'est ça, c'était un peu le bouche à oreille qui m'a permis d'avoir ça. J'ai des amis, tout ça, qui connaissent pas mal de personnes et puis qui parlent autour d'elles. Et du coup, ça m'a permis d'avoir ça. Bon, au final, ce qui est dommage, c'est que j'ai rien à montrer parce que la personne n'a pas continué ensuite. Elle a changé d'avis par la suite et s'est dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Bon, voilà, j'ai ça. Et j'ai pu avoir la chance de travailler pour une start-up en full remote pendant 3 semaines, qui est l'autre mission que j'ai réussi à obtenir. J'avais réussi le test technique, tout ça, et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup appris en 3 semaines avec eux. Bon, là, c'était rude. Par contre, c'était très, très rude. Ils m'ont pas gardé parce que j'étais, lente par rapport à la vitesse d'exécution des autres devs. J'étais avec des devs seniors, là. Donc, du coup.
Après aussi, l'environnement startup, c'est que ça évolue vite, ça bouge vite. Ils ont besoin de résultats très rapides. C'est vrai que, quand on est junior et qu'on arrive dans ce monde-là, ça peut être déconcertant. C'est que ça va tellement vite.
C'est ça. Sur le moment, je l'ai mal vécu. Hein. On se remet en question soi-même. Déjà, j'entends beaucoup, et moi-même, d'ailleurs, je me fais remarque pour ma propre personne. J'entends beaucoup de « ouais, je suis lent, machin, il faut du temps ». Mais en fait, il y a des personnes qui vont avoir tout de suite le truc, la méthode pour savoir être rapide. Et en fait, d'ailleurs, c'est ça que j'ai appris. C'est qu'en réalité, c'est pas tellement qu'une question de capacité. On croit beaucoup que notre cerveau, il fait d'une certaine manière et tout. Pas du tout, en fait. Hein. Beaucoup de personnes très, très douées dont on a étudié le cerveau, on a vu qu'ils avaient le même que tout le monde, en vrai. Ouais, non, mais c'est fou, mais on a des croyances comme ça. Et en fait, c'est beaucoup une question de méthode. Et parce qu'il y a des personnes, elles ont tout de suite le truc, elles trouvent le truc qui marche avec elles. Et je l'ai appris, là, en lisant, en me documentant sur l'apprentissage. Et c'est là que j'ai vu, Mais en fait, c'est normal. Le connectome, il est lent. Et en fait, c'est long, un apprentissage. Et ça m'a fait du bien de constater ça parce que, en fait, il y a un gros fossé entre ce que veut, entre guillemets, ce que veulent certaines entreprises qui va être, ouais, on est là, faut de la productivité. Et si t'es pas productif, si t'es pas rapide, alors t'es pas capable. Mais en fait, non, c'est pas vrai.
C'est ça, t'as besoin et de temps.
C'est ça, c'est que l'apprentissage, c'est quelque chose de très, très grand, qui demande beaucoup de temps. Alors, je le dis là, si jamais, justement, vous vous dites, ouais, je suis lent ou je suis lente, c'est normal. Alors là, rien de plus normal que d'être lent.
Ça, c'est
et d'avoir une entreprise qui, alors, certaines ont besoin de développeurs rapides, ok, hein, mais d'avoir des personnes qui vous le reprochent, ça, bah non, en fait, on peut pas vous reprocher ça, parce qu'en fait, c'est normal, voilà.
C'est ça, c'est... red flag.
C'est ça, c'est un red flag, c'est rien de plus normal, donc surtout ne vous sentez pas mal du tout d'être lent. Bon, je dis ça, je suis la première à pas aimer quand je sens que je le suis, mais faut accepter.
Voilà, faut l'accepter. Tu peux pas changer ça. Donc là, tu fais, tu t'essayes au freelance pendant un an, et là, tu vois que ça marche pas trop, tu décides d'arrêter, et du coup, tu te diriges vers un CDI, c'est ça?
C'est ça. Alors, ce que j'ai fait ensuite, parce que je me montrais peu sur les réseaux, j'ai aussi eu, pas mal de soucis perso qui faisaient que j'étais très renfermé, je communiquais plus. Je suis quelqu'un qui a connu des périodes de solitude très intenses. Et là, j'en sortais un peu aussi. Donc, très, très compliqué. Donc, début 2022, je commence à me dire, ouais, mais là, Aline, faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu bouges. Faut faire un truc. Pas rester comme ça, dans l'ombre. Et je me suis dit, ouais, t'as un compte Twitter. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas discuter avec les autres devs qui sont dessus, essayer de plus communiquer plutôt que de te renfermer trop. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à communiquer, j'ai commencé à partager ce que je faisais, à me dire, bon allez, j'avais peur qu'on critique ce que je fais, mais je me suis dit, mais au pire, même si tu as des critiques, bon, c'est pas grave, allez, lance-toi.
C'est ça, let's go.
C'est ça. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, ça m'a donné, j'ai vu des personnes faire des lives. J'ai vu des personnes qui faisaient ça, déjà ça, partager leur quotidien, partager ce qu'ils savent. Et puis, j'ai vu aussi, comme je te disais, toutes un peu ces réflexions négatives que j'avais vues avant, qui me décourageaient aussi. Et je me suis dit, il y a d'autres personnes qui doivent ressentir ça. Et ça m'a donné envie. Et je me suis lancée. Et pareil, donc, à cette période-là, alors, faut savoir que je suivais un influenceur donc qui s'appelle Ulysse Lubin, que je suis depuis 2020 en fait, et lui il m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un alors qui pareil du jour au lendemain il a remis en question un peu sa vie. Mm-hmm. Du jour au lendemain il a dégagé tout son appartement, ses affaires, machin, il a pris son sac à dos, il a fait un tour du monde, il est parti et depuis il documente, il se fait de l'argent avec tout ça. Et c'est quelqu'un qui a mis des mois et des mois à faire de l'introspection, à travailler sur lui, à travailler ses outils. Enfin, clairement, il a fait comme ça. Et à un moment donné, j'ai vu une phrase c'est vraiment la phrase, celle-là m'a fait tout remettre en question, c'est « lance-toi avant d'être prêt ». Et parce que c'est vrai que je me disais toute ma vie, je me disais ça tout le temps. D'ailleurs, tout le monde, on fait ça parce qu'on a peur. On fait « bon, je ferai ça quand j'aurai ça ». Où je ferai ça, quand ça ce sera enfin acquis. Combien de fois je reculais par en avant dans le futur, mais tout ça. Ouais, et en fait, c'est toujours comme ça, mais on fait ça, c'est fou. Et là, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait, je vais sur LinkedIn et je vois qu'il y avait un hackathon chez Hack My Flat. Et je me suis dit, ouais, mais Aline, quand même, tu sais pas trop coder, c'est pas ouf et tout. Mais toute la nuit, je me triturais l'esprit. Et après, j'ai repensé à cette phrase et je me suis dit, bon, allez, vas-y, fais-le. Allez, t'es flippé, t'as peur, mais fais-le, c'est pas grave. Au pire, qu'est-ce qui va t'arriver?
Tu vas apprendre. Rien. Au pire, si ça, voilà, ça, tu es fou, c'est pas grave. Personne te dira quelque chose, quoi.
Exactement. Et j'y ai participé et alors, aucun regret parce que ça a été une super expérience. Je me suis éclaté, mais alors, tout un week-end. Par contre, j'ai quasiment pas dormi. Ça a été un week-end à fond code. Et c'était trop bien. En plus, avec des gens que j'avais jamais vus, on se connaissait pas. Hein. J'ai fait ça avec des inconnus, clairement. Et ça a été une super expérience. Et autre élément que j'ai fait, où pareil, je me suis dit, allez, vas-y, allez, on arrête d'avoir peur. C'est donc à ce moment-là, Lior avait lancé son petit concours de conférences et pour justement amener des personnes à se mettre en valeur. Et là, je me suis dit, bon, allez, Osef, vas-y, hein, donc j'essaye, je me lance. Et pareil, super, super expérience. Et c'est tout bête, mais d'avoir partagé, d'avoir participé à ça, d'avoir mis une dynamique dedans, de m'être lancé à faire des lives, alors que tout ça, c'est des choses qui me font peur et qui me faisaient peur, hein. Ça m'a donné plein d'ouverture. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pu trouver un travail sur Twitter, du fait de m'être montré, d'avoir osé. Et justement, de pas avoir attendu d'être prête. J'ai pas, même à l'heure actuelle, j'attends pas d'être une super dev. Voilà.
C'est ça. Moi, c'est le conseil que je donne souvent, c'est que, partage ton travail, quoi. Et une petite présence en ligne. Pas d'avoir un million de followers, mais juste partage un petit peu ce que tu sais faire. C'est que ça sert toujours. Un jour, tu chercheras peut-être une mission. Et, Twitter, il y a tellement de personnes de la tech dessus. T'as tellement de connexions à te faire que, voilà, lance-toi et t'en auras des opportunités là-dessus.
Exactement. Et même pour les personnes, pour qui c'est vraiment très difficile de se lancer de cette manière-là, puisqu'il n'y a pas que comme ça. Lancez-vous quand même. Si vous voulez postuler, tentez. Ne vous laissez pas, tentez, en fait. Faut avoir un peu de culot, comme on dit.
C'est ça.
Par moment, faut pas hésiter, ouais, en fait.
C'est ça. Des fois, tu vois des fiches de poste avec un million de technologies à apprendre, à connaître.
Et ouais.
T'en vois deux que, on va dire, t'es familier avec, postule, c'est pas grave. Jamais ils vont trouver quelqu'un avec toute cette stack. C'est quasiment impossible. Donc, tente-le.
Non, puis surtout si le feeling passe bien, si de bien prendre le temps, pareil, c'est ce que j'ai aussi. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'a pas le droit d'essayer de trouver des entreprises qui nous conviennent. De pas, même si on est tenté par ça, mais de pas aller vers n'importe quoi, parce qu'après après il y en a chez qui le mal-être il va arriver, il va être là. Et c'est comme ça aussi qu'on, malheureusement, on s'en trouve dans des expériences qui sont pas si positives. Il y a des personnes qui malheureusement se retrouvent dégoûtées du dev parce que malheureusement il y a un entourage qui va faire que. Et donc surtout d'être attentif à ce que l'entreprise soit bien une entreprise qui partage vos valeurs. C'est vraiment important, en fait, hein.
C'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver la première entreprise. Du coup, on se met, on va dire, à accepter toutes les missions. Mais c'est vrai que si on peut, c'est pas toujours le cas, mais si on peut choisir une entreprise qui partage les mêmes valeurs, qui peut te, où tu sais que ta santé mentale sera considérée, c'est vraiment le meilleur choix à faire, ça.
Ah oui, puis j'insiste dessus parce que clairement le burn-out, je suis passé par là, et quand ça nous tombe dessus, c'est très dur d'en sortir, très dur de retrouver de l'énergie parce qu'on est fatigué pendant très très longtemps. C'est une énorme fatigue, hein. C'est quand il parle d'épuisement, c'est le mot. Clairement, c'est le mot. J'ai eu le cas impossible de me lever de mon lit. L'envie intérieure de le faire, mais la force n'était pas là. Et ça peut aller jusque là, de malheureusement pas écouter sa santé mentale. Ça peut aller très très loin. Et après, ça fait un terrain où on est très fragilisé. Je mets quand même des warnings parce que pour moi-même, par exemple, je sais que maintenant il y a certaines situations, je ne pourrais plus du tout les supporter comme avant. C'est terminé. Donc ça c'est, par exemple, alors pour moi, ce serait d'aller tous les jours en présentiel dans une entreprise. Je sais que je ne peux plus. Voilà, c'est
pour moi.
impossible. Et parce qu'en plus, quand j'ai toujours beaucoup beaucoup de monde, déjà la productivité, moi, elle en prend un coup direct. Et puis parce qu'il y a un vrai, j'ai un vrai mal-être, hein. Je finis par avoir des nausées, des vertiges, des effets intenses, vraiment, où je me sens down. Dans mes jobs auparavant, alors pas les premiers, mais vers la fin, il fallait que j'aille littéralement dehors. Je me mettais accroupi au sol pour reprendre ma tête comme ça entre les mains, parce que ça tournait. Et ça me fait ça, en fait, quand je suis trop longtemps hors de ma zone, en fait. Voilà, vous voyez la pièce derrière moi, d'ailleurs, tout en bois. C'est mon cocon, voilà, c'est ma pièce de bien-être. C'est là où je travaille bien, voilà. Là où mon boulot de dev, je peux le faire nickel. Et à l'extérieur, une fois de temps en temps, une fois dans le mois, je peux le faire. J'arrive à prendre sur moi. Mais vous vous rendez compte, même une fois, c'est je dois prendre sur moi.
C'est ça, c'est un effort, un gros effort. Exactement. Après, c'est pas mal que, on va dire, t'aies pu trouver un secteur où tu peux être bien, tu vois, où ton bien-être passe avant tout et tu peux te retrouver comme ça en télétravail. Même, c'est un truc qui se fait maintenant beaucoup, hein, le télétravail. Donc, je pense que tu as trouvé ton truc maintenant.
Exactement, oui. Et puis, en ce moment, bah, tiens, justement, j'apprends l'anglais là où tu l'as appris. Du coup,
top.
Voilà, je me suis inscrite chez eux pour que, bah, si jamais par la suite, je veux pouvoir m'ouvrir à des contrats plus nationaux et pas forcément être que cantonné à la France si jamais un jour je veux faire autre chose. Bon, bah voilà, que ça m'ouvre sur ça.
C'est ça, je trouve que c'est super important, même que, enfin, en plus, t'as beaucoup de postes en full télétravail qui viennent même de l'étranger.
Oui.
Enfin, pour moi, je conseille à tout dev, s'il peut ajouter l'anglais à son vocabulaire, c'est pas mal parce que déjà tu trouves beaucoup d'opportunités et à niveau doc, tout ça, enfin, toutes les docs sur internet sont traduites, mais si tu peux écouter par exemple un podcast ou des vidéos, enfin, vraiment en version originale et pour moi, il n'y a rien de mieux que ça.
C'est ça.
L'anglais.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une langue qui est extrêmement présente dans le dev, et comme tu dis, il y a toutes les docs quasiment. Bon, de plus en plus, ils traduisent quand même, de plus en plus de langues. C'est bien aussi, mais c'est bien aussi d'avoir un langage universel. J'aime le fait que justement, d'ailleurs, que le dev, ce soit autant lié au côté internet, justement, parce que j'en parlais avec un ami, on en parlait tous les deux, on se disait, mais... Ça, en fait, c'est bien. Ça donne le sentiment qu'on est un peu des citoyens du monde dans ce monde-là. Bah, c'est-à-dire que c'est ensemble, les nationalités de chacun et de chacune, c'est pas grave. Voilà, c'est pareil. Et d'avoir un peu ce langage, l'anglais, un espèce de langage universel qui est le langage de tout dev.
Ça,
c'est top. Ça, c'est vraiment top.
Bah, pour le petit exemple, c'est que je quitte la France, j'arrive en Suède et le seul truc qui, on va dire, qui me lie avec tous les autres devs, c'est l'anglais. Enfin, c'est pas, y a rien de magique, c'est vraiment essayer d'apprendre l'anglais et tu t'ouvres une autre porte, quoi. T'as une multitude d'opportunités et de connexions qui viennent à toi et franchement incroyable. Et là, du coup, actuellement, tu es en CDI. Dans la même boîte, hein.
Oui, c'est ça. Je suis dans la même boîte, là, depuis l'année dernière, en CDI. Du coup, c'est cool. J'ai pu être sur différentes stacks. Donc bon, majoritairement React Native, aujourd'hui. Voilà, du front. Et je commence un petit peu à faire du Laravel. À être un peu sur Laravel.
Ça marche. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour une personne qui souhaiterait se reconvertir comme toi?
Alors le seul conseil, en tout cas les seuls conseils que je pourrais vraiment donner, c'est un peu ce dont on a parlé là, de manière générale. C'est d'apprendre à bien se connaître dans un premier temps, à bien savoir comment on fonctionne en fait, au-delà de tout ça, parce que c'est ça qui vous fera choisir la formation qui vous convient. N'essayez pas, en fait, je pense que d'essayer de savoir si une école est bien ou pas, c'est pas que c'est une mauvaise approche, mais c'est peut-être pas la meilleure. Mais juste réfléchir à si elle est bien pour vous. Voilà. Pour ma part, ça a été Open Classroom, mais parce que c'est bien pour moi. Open Classroom, par contre, peut-être que je conseillerais pas à des personnes qui ont envie de voir du monde, qui ont envie de présentiel, qui ont envie, enfin, je sais pas. Mais après, bon, peut-être qu'ils ont des formations qui permettent ça, je ne sais pas. Je connais pas tout le truc. Mais écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous, prenez le format qui vous convient et pareil dans votre manière d'apprendre. Faites ce qui vous convient à vous. C'est très bien de lire les conseils des autres, c'est très bien d'aller voir des avis, mais c'est des devs qui ont expérimenté et vous expérimentez-vous aussi personnellement. C'est hyper important.
Du coup, est-ce que tu aurais des petites ressources à recommander, des ressources pour apprendre ou même, t'as partagé quelques bouquins pour apprendre plus sur soi, tu aurais des petits trucs à nous donner?
Alors pour apprendre plus sur soi, alors j'ai pas du tout des bouquins de développement personnel. Faut savoir que j'aime beaucoup les classiques, mais certains classiques peuvent être très inspirants. Parmi, alors si des personnes veulent lire des classiques, pour ça, très court, donc celui que je lis, que je peux montrer là directement. Alors, justement, qui est pas très dur, je vous montre ça, et que j'ai fini de lire hier. Voilà. Donc, Natsume Soseki, mon individualisme. Écoutez, voilà, justement, qui conseille ça, qui parle aussi un peu de quand on a du pouvoir et de l'argent, de comment l'utiliser. Parce que c'est, encore une fois, c'est bien d'imposer qui on est, mais on n'écrase pas les autres pour autant.
C'est ça.
Je peux vous conseiller aussi les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Parce que à l'intérieur, il conseille justement un autre poète qui doute beaucoup de ses écrits, et il donne énormément de conseils sur l'importance de ne pas justement dépendre des avis des autres, de se lancer, de faire les choses. Comment aussi savoir bien apprécier la solitude pour l'utiliser à son avantage. Alors ça, c'est plus pour des petits enseignements personnels, mais il n'empêche que ça nourrit beaucoup, ça fait toujours du bien.
C'est ça, bah, des périodes de doute où ça peut vraiment bien servir.
Exactement. Donc pour les personnes qui aiment lire, il y a aussi un livre très récent dont je parlerai à plusieurs reprises par la suite, qui s'appelle Mathematica de David Bessis. Je l'ai trouvé absolument formidable, ce livre, tout simplement parce que déjà, on entend très rarement des mathématiciens parler de faire confiance en son intuition. C'est pas du tout commun, et j'ai trouvé ça génial comme approche, parce que justement tout le long de son bouquin, il évite cet élitisme justement qui peut y avoir aussi dans le dev.
Dans le dev aussi, c'est ça.
Exactement, et il met beaucoup en valeur justement ce que je disais au cours de ce podcast, le fait que tout est question de méthode. Tout est question de savoir soi-même justement comment notre cerveau fonctionne, comment apprendre et comment suffisamment bien s'écouter pour faire ce qu'il faut pour nous. Et lui, il a un petit peu déconstruit, pour lui, c'était pour mettre en valeur aussi le fait que les maths, c'est pas pour les gens, seulement les gens doués, c'est pour toute personne qui s'y intéresse, comme pour n'importe quoi. Voilà.
Ça rejoint, on va dire, le discours où les profs au lycée te disent faut être fort en maths pour être dev. Et enfin, au final, tu vois que faut pas être forcément un crack en maths.
Non. Pas du tout. Non, c'est juste quand quelque chose vous intéresse, eh bien, sachez qu'on est tous et toutes capables de l'apprendre, de l'assimiler, et que souvent, quand ça passe pas, c'est juste qu'on n'a pas compris. Voilà, juste, c'est de ne plus dire qu'on est nul. On n'est pas nul quand on ne sait pas. Quand je disais que par exemple, une API, je savais pas ce que c'était au départ, je n'avais pas compris. Je suis pas nul. Je n'avais pas compris. C'est pas pareil.
Voilà,
et souvent, c'est ça.
Bon, en tout cas, merci à toi Aline pour ce moment, c'était vraiment super et j'espère que ton parcours inspirera plus de femmes à se lancer dans la tech ou à partager un peu plus.
Allez les développeuses, faut qu'on se montre, on est là nous aussi.
C'est super important d'avoir des femmes ici comme ça, enfin pas pour donner l'exemple, mais pour montrer que dans ce métier, il y a aussi des développeuses qui sont aussi capables de faire des belles choses. On n'est pas que des développeurs, voilà, c'est que on est tous ensemble et on va tous dans la même direction.
Exactement.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Parcours Tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, @mansjs. À bientôt.